de les comprendre.
Oh, pas de problème. Je comprends toujours vite quand on m'explique longtemps. Donnez-moi la force de comprendre,
car c'est vision à ça. Bon, c'est le thème de Martin Carly, ouais. Qu'on reçoit chaque samedi à l'émission Weekend Extra. Bonjour Martin.
Salut Marie-Hélène.
Ça va bien?
Ça va très bien.
Oui. T'es en relâche, là?
Ben oui. En fait, c'est ma seule semaine de congé à part les vacances d'été de l'année parce que moi, toute l'année, je travaille à trouver des nouvelles expériences puis à écrire des textes pour Génial. Mais ouais, c'est la seule semaine où on est tout en congé.
Samedi,
ben oui,
on est comme ça, nous autres.
Ah, ça me fait plaisir. Je suis content d'être là.
Bon, Martin, ta première nouvelle est vraiment ravissante.
Elle touche la cible. Hein?
Donc, on confirme, c'est confirmé par des études que tenir la main de l'être aimé peut apporter des bienfaits.
Tout à fait. Peut carrément soulager sa douleur. Donc ça, intuitivement, je pense qu'on le fait tous dans la vie. Hein? L'exemple classique, c'est l'accouchement. Hein? Donc souvent, le conjoint va tenir la main de sa conjointe qui est en train d'accoucher pour lui donner support moral, bien entendu, être présent, essayer d'alléger sa douleur. Donc là, il y a carrément un contact physique qui est important dans ce cadre-là. Mais aussi, on peut penser à plein d'autres situations. T'as mal épisodiquement, t'as envie de toucher quelqu'un qui est près de toi. On a les images de quelqu'un, une personne âgée en fin de vie avec quelqu'un d'autre qui lui tient la main.
Écoute, moi, je viens d'avoir un flash. Dis-moi. J'ai pris l'avion, je suis revenue là, d'un petit voyage cette semaine et moi, j'ai un peu peur au moment de l'atterrissage et je me suis rendu compte que j'avais à chaque fois le réflexe de prendre la main de mon chum.
Voilà. Puis ça, c'est logique de penser qu'on fonctionne comme ça parce que l'être humain est un animal social, donc on a évolué en groupe. Donc, le fait d'être en groupe doit apporter certains bienfaits donc qui ont été importants pour notre évolution, pour la survie de notre espèce, de un. Mais de deux, maintenant, on a carrément les preuves scientifiques qui viennent supporter ce contact-là physique.
Comment on démontre ça?
Bon, alors déjà, jusqu'à maintenant, on savait que lorsqu'on tient la main de quelqu'un qui est en douleur, eh bien, on assiste à une synchronisation au niveau du rythme respiratoire et du rythme cardiaque. Donc, il y a carrément une synchronicité interpersonnelle, c'est comme ça qu'on appelle le phénomène, qui s'établit entre les deux. Mais là, ce qui est vraiment cool dans cette étude-là, c'est qu'on a mis, on a recruté 22 couples hétérosexuels, hommes-femmes, et...
Pourquoi hétérosexuels?
Ça, l'étude ne dit pas, mais
parce que à la vue des résultats, un couple gay peut se tenir la main, puis ça a le même effet. Là,
Absolument. Le potentiel de ces résultats-là, c'est d'aller exploser ça un peu plus, là, puis voir est-ce que des différences d'âge dans les couples. Donc, on avait des couples un peu plus homogènes, donc des couples de 23 à 32 ans, hétérosexuels et tout. Et on faisait vivre certains scénarios à ces couples-là. Scénario très simple, le fait d'être assis tous les deux dans la même pièce sans se toucher, d'être assis dans la même pièce mais de se toucher, donc de se tenir la main, ou d'être dans deux pièces attenantes, donc ils peuvent communiquer l'un l'autre, mais ils se touchent pas. Bien entendu, ils sont pas dans le même lieu physique. Et là, on a mis des casques sur la tête des deux membres du couple pour pouvoir enregistrer par électroencéphalographie les ondes cérébrales. Carrément, là, toutes les ondes cérébrales qui sont détectables avec des électrodes sur le dessus de la tête. Parce qu'on sait que le cerveau fonctionne grâce notamment à des impulsions électriques. Donc, il y a des ondes cérébrales qui sont détectables avec des électrodes. Et ça révèle pas mal l'activité du cerveau. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que dans la moitié des scénarios, ils imposaient une sensation douloureuse à la femme, donc à un des deux membres du couple. Sensation qui est simplement, c'est un petit bracelet avec une petite plaque chauffante et on te chauffe la peau, mais pas au point que ça soit dommageable, mais tu le sens assez pour que ça déclenche tes mécanismes de réaction à la douleur. Et là, on regardait les ondes cérébrales des deux membres du couple et on regardait est-ce que les ondes sont synchronisées ou pas. Eh bien, crois-le ou non, lorsque les deux membres du couple sont dans la même pièce et sont en mesure de se toucher, ils sont en mesure de synchroniser leurs ondes cérébrales au moment où il y a une douleur qui s'impose.
Est-ce que ça veut dire que la fille qui recevait la petite brûlure, ça faisait que le gars sentait quelque chose aussi?
Non, pas du tout. Mais en fait... C'est comme si il y a une certaine synchronisation, une certaine homogénéisation dans les deux membres du couple qui permet à la personne qui ressent la douleur d'alléger cette douleur-là.
Ça atténue.
Exactement, en synchronisant sur certains paramètres là, de son conjoint ou de sa conjointe. Et ce qui est intéressant ici, c'est que le maximum de synchronisation, on l'obtenait lorsqu'il y avait vraiment un contact physique. Donc, on voyait déjà un effet quand les deux conjoints étaient dans la même pièce, mais quand ils se touchaient, l'effet était maximal. Et ce qui est encore mieux, c'est que lorsque le conjoint qui n'avait pas la douleur avait de l'empathie pour l'autre qui ressentait la douleur, cette synchronisation était encore plus élevé. Et ça, on se l'explique pas. On sait pas comment ça se fait que parce que tu as de l'empathie pour ma douleur, ça va mieux. Mais l'hypothèse des chercheurs, c'est le fait que on se sent plus compris. Et si on se sent plus compris, eh bien, on est capable de mieux contrôler notre douleur.
Très
parce que au niveau de notre cerveau, ça se passe mieux. Et ça illustre en conclusion quoi? Ça illustre le fait que le toucher humain a un effet puissant qu'on néglige de plus en plus à notre époque où on a plein de moyens de communication, les textos, les iPads, les ci, les ça, mais on se touche pas mal moins qu'avant. Et
écoute,
ça, c'est
une
dommage.
Pensée pour les gens, tu sais, les gens malades, les personnes âgées, malheureusement, souvent, ces gens-là, voilà. Il n'y a plus personne qui leur prend la main.
Déplore souvent le fait qu'on voit moins souvent nos gens âgés, malades et tout moins les voir. Ben, d'aller les voir, ça va permettre de les toucher. Puis si on les touche, peut-être qu'on peut alléger leur souffrance, leur douleur. C'est ce que cette étude démontre.
Très intéressant, Martin. Puis en plus, les filles adorent ça quand vous nous tenez la main. Là, on fait encore des liens. L'hypertension est responsable de bien des choses. Mais là, on fait des liens entre maintenant l'hypertension et le système immunitaire.
Tout à fait. Que le système immunitaire joue un rôle dans tout ce processus d'hypertension-là. L'hypertension, c'est quelque chose qui est très grave. Ça touche plus d'un milliard de personnes sur la planète. Et les symptômes là, ou les conséquences sont graves. On parle de problèmes de crise cardiaque, de problèmes rénaux, de démence. Donc, toutes sortes de problèmes qui peuvent découler d'une hypertension. Et bien entendu, les facteurs principaux qui mènent à l'hypertension, c'est beaucoup quoi? Le stress, la diète. Donc, il y a des facteurs prédominants. Mais on sait depuis au moins 10 ans maintenant que le système immunitaire joue un rôle dans le processus de l'hypertension. On sait que c'est pas le déclencheur, mais qu'il joue un rôle. Et là, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a des modèles de souris qu'on peut rendre hyper tendues en leur donnant une hormone qui s'appelle l'angiotensine 2. Donc, on leur donne cette hormone-là et elles deviennent hyper tendues. Leur tension sanguine monte. Exactement. Ouais. Bon. Mais là, ce qui est intéressant ici, c'est qu'une protéine qui s'appelle la 2-OBA, H-O-B-A, qui est extraite du sarrasin, eh bien, permet de ramener la pression sanguine de ces souris hypertendues à une pression normale. Et là, évidemment, on se demande pourquoi. Eh bien, pour comprendre pourquoi, il faut savoir un peu comment ça marche. Comme je l'ai dit, le système immunitaire, c'est pas le déclencheur de l'hypertension. Ça, on le sait. Mais on sait que lorsque tu es hypertendu, tu commences à endommager tes vaisseaux sanguins. Et le fait que tu endommages tes vaisseaux sanguins...
Ça a un effet sur le système immunitaire.
Force le système immunitaire
à entrer, à travailler plus.
À travailler puis à s'en venir pour voir qu'est-ce qui se passe ici. Il y a une inflammation, il y a une irritation, et ainsi de suite. Et le problème de ça, c'est que le système immunitaire, lorsqu'il entre en fonction, ça devient un cercle vicieux parce qu'il vient empêcher les cellules qui recouvrent les parois intérieures de nos vaisseaux sanguins de produire des composés chimiques pour alléger cette pression-là. Donc, la pression continue d'augmenter. Fait que le système immunitaire accentue le problème au lieu de venir le soulager.
Et ça, c'est une étude qui est menée dans le but de trouver un autre traitement pour l'hypertension?
Exactement, parce que présentement, les traitements qu'on a, c'est quoi? On a, par exemple, des diurétiques, donc on essaie d'éliminer le plus de liquide possible pour que notre pression soit plus basse, ou on utilise des bêta-bloquants, donc on force le sang à pomper à pomper moins de sang, en se disant, ben là, on devrait être pas pire. Mm-hmm. Le problème, c'est qu'il y a 15 à 20% des gens qui réagissent pas à ces traitements-là, donc faut trouver d'autres choses. Eh bien, avec cette petite protéine-là qui vient du sarrasin, on pourrait empêcher ou inhiber l'intervention du système immunitaire et ainsi diminuer les symptômes d'hypertension. On est déjà en train de tester pour voir est-ce que c'est sécuritaire. Puis ça, c'est toujours la première étape. On peut-tu prendre cette molécule-là sans avoir des effets secondaires graves?
Ouais.
Puis après ça, ça fait-tu dans notre corps ce qu'on veut que ça fasse? Donc, les essais cliniques sont à venir. C'est franchement très emballant.
Oui, parce que ce sont des médicaments qui sont vraiment beaucoup prescrits. Là.
Vraiment.
On a quelques secondes à peine, Martin.
On va parler du cancer,
de ces bactéries qui nous protègent du cancer. On essaie de se tenir loin des bactéries, mais il y en a certaines qui peuvent nous protéger. Là.
Parce qu'on a tendance à penser que nous, dans vie, là, on vit avec nos gènes à nous autres, puis c'est tout. Mais c'est pas vrai. On vit avec des millions de gènes qui viennent de tous les micro-organismes qu'on a dans notre intestin, par exemple, et tous les micro-organismes qui recouvrent notre peau. Eh bien, crois-le ou non, il y a certains de ces micro-organismes-là qu'on retrouve sur notre peau qui produisent des protéines qui tue les cellules tumorales dans des tumeurs de peau, ce qui est franchement fabuleux. Donc là, on est en train de jouer sur cette protéine-là pour voir est-ce qu'on peut en administrer aux gens pour prévenir des tumeurs cancéreuses au niveau de la peau ou pas. Mais là aussi, encore, on a un traitement qui pointe à l'horizon, qui pourrait... Là, on parle vraiment des tumeurs qui sont causées par les rayons UV du soleil. C'est 95% des cancers de la peau annuellement, ça, ces fameuses tumeurs-là. Donc, si on avait cette piste-là, grâce à des petites bactéries qui viendraient nous aider, pourquoi pas?
Ben, c'est porteur d'espoir.
Vraiment.
Ben, Martin Carly, merci infiniment. Je
voulais donner des bonnes nouvelles.
Mais oui, c'est très gentil. Puis bonne fin de semaine de relâche, Martin. Au retour, bien sûr, les informations. Et on s'entretient avec Jean-François Dionne, qui est président de l'Association des travailleurs en signalisation routière du Québec. On va revenir avec lui sur le décès de Stéphane Lebel. Les funérailles ont lieu cet après-midi à Laval.